Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanc et Michel Arbat, c'est consacré à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanc et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois.
I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know.
Un matin chez les Dickinson, juste avant le petit déjeuner, à l'heure de la prière, la mère agenouillée chuchote à Émilie, elle aussi à genoux, qu'il fait si froid qu'elle est en train de se changer en banquise. Soudain, la voix du père, comme un aigle royal, prend son envol, imposant à tous le silence. Édouard dénonce avec gourmandise les dernières fautes de ses enfants, puis il lit le psaume du jour. Ses prières pour l'âme des siens font trembler les vitres comme une pluie de comètes. La scène est si belle que la mère essuie une larme avec un coin de son tablier de lin. On passe à table. La secrétaire des anges boit à petites gorgées son chocolat dans une tasse en porcelaine de Chine, bleue et blanche, au bord liseré d'or fin. Elle a tout vu, tout noté. Telle une petite fille de 22 ans, Émilie regarde les adultes s'entasser comme des bûches dans la pièce, chacun portant sur son visage le deuil du printemps. La petite fille se balance d'un pied sur l'autre, hésite entre la terreur et le rire. Enfin, le père suspend la séance et invite tous les morts à le suivre dans une autre pièce. Émilie, laissée seule, commence à tenir la chronique de ce dimanche pour son frère, absent de la maison. Son rire est une échelle de cordes qui dégringole du ciel.
Oui, eh bien, l'Émilie dont on voulait parler, c'est évidemment Émilie Dickinson, après cette entrée sur des chapeaux de roue dans cette émission où nos camarades musiciens ne voulaient pas céder la place à ce beau texte de Christian Bobin qui nous parle de l'enfance d'Émilie Dickinson. Et bien voilà, c'est d'elle qu'on va parler, de cette comète un petit peu particulière. C'est une émission qu'on a préparée avec Yves, Thérèse Bonetta, et puis on a deux invités de marque qui sont... nos amis en anglais et anglophones, enfin je ne fais pas d'erreur sur votre nationalité, hein, et américains, voilà, c'est... puisque Emily Dickinson est une poétesse américaine du siècle dernier, enfin du siècle d'avant encore, 1830, sa naissance. Vous voulez peut-être prendre le relais là un petit peu
Oui, c'est cette comète dont parle Christian Bobin, hein, puisqu'il s'agissait de lui dans ce précédent texte, dans La Dame Blanche. Comment une telle comète peut-elle apparaître dans un monde puritain, américain, provincial, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle?
En fait, elle s'inscrit déjà dans une lignée aristocratique qui vient de loin, puisqu'elle elle fait partie de ces familles qui, 200 ans plus tôt, étaient venues avec la première vague migratoire puritaine Et ses ancêtres avaient rejoint le Nouveau Monde, où ils avaient prospéré. Donc une famille très rigide, très attachée à la lettre des Écritures.
Alors ça se passe, il faut dire, pour situer un peu géographiquement, ça se passe dans le Massachusetts, à Amherst, qui est une petite ville de, je crois, 2800 habitants, ou quelque chose comme ça. Le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Eh bien, il ne fait pas des affaires, comme dans les poèmes
il
de Prévert, mais il est avocat.
Il est
et
avocat.
Il est même, je crois, aussi l'économe du grand collège de Amherst, qui a été créé par le grand-père, je crois.
Oui,
et c'est la fierté de la famille de faire marcher... Voilà, donc le père, il est économe, avocat, brillant d'ailleurs, d'après ce que je
oui,
sais.
Oui, tout à fait, puisqu'il sera aussi sénateur, donc il s'aligne aussi dans cette histoire de fonctionnaires politiques qui vont figurer l'arbre généalogique. Il y a des traces du grand-père d'Émilie, Samuel, qui lui était un bâtisseur et a fondé ce fameux collège d'Amherst. Et puis le père, a pris les pas du grand-père, hein. Et il sera juge à Amherst, représentant à la Chambre des députés, sénateur à la capitale de l'État et pour finir, représentant pour l'État au Congrès de Washington.
Alors voilà. Effectivement, c'est un homme politique, un notable, on peut dire ça.
Oui.
Mais dans sa vie privée, il est un peu rigide. D'ailleurs, lorsqu'il se marie, lorsqu'il épouse sa femme, il lui dit « Préparons-nous pour une vie de bonheur rationnel. Je n'entends ni ne veux une existence de plaisir. » Puissions-nous être heureux et utiles et puissions-nous réussir, chacun de nous, un ornement de la société.
Oui, donc la maisonnée se compose de ce père, rigide, austère, et elle se compose aussi de cette mère, Emily Norcross, qui est une mère effacée, par la suite sera malade, paralysée, à la suite d'une crise, ne pourra plus travailler. Dans une lettre à ses amis, on retrouve des propos d'Émilie qui sont de cet ordre.
Je ne sais pas ce que c'est qu'une mère. Elle dit quelque chose comme ça.
Elle parle beaucoup de l'invalidité de sa mère, hein, des crises d'Émilie. Et puis, elle parle à sa sœur Winnie, donc Lavinia, surnommée Winnie. Ils sont donc deux enfants. Il y a Austin, son frère aîné, qui a un an de plus qu'elle, et Lavinia, qui a 3 ans de moins qu'elle.
Et elle.
Et donc cette mère dont elle va s'occuper, mère est au salon ou dans son fauteuil. Et dans une autre lettre, elle écrit à l'une de ses amies, et c'est vraiment, ça pose déjà tout ce contexte familial, je n'ai jamais eu de mère. Je suppose qu'une mère est quelqu'un vers qui on accourt quand on a des ennuis.
Voilà. Et alors la petite Émilie, c'est quand même une enfant assez espiègle, d'après ce qu'on a comme court témoignage. Elle n'est pas apparemment très douée pour les études. Et d'ailleurs, le père ne s'intéresse pas trop à ses études. D'ailleurs, à un moment, je crois qu'on en parlera plus tard, mais il va la faire sortir. Et elle s'intéresse beaucoup aux choses de la maison. Hein. Elle est très bonne en cuisine, je crois. Elle obtient même, je crois, un prix avec un gâteau. Je ne sais plus ce que c'est. Un gâteau au maïs et à la
au seigle.
Voilà. Et également, elle s'intéresse beaucoup à la marche de la maison, aux animaux, aux fleurs.
Mais en fait, elle a déjà. Il faut comprendre, pour comprendre Emily Dickinson, il faut comprendre qu'elle a déjà, avant ce zèle scolaire, l'idée transmise par ses parents de l'esprit de famille. Et effectivement, ce sera une grande camarade de jeu, camaraderie avec son frère Austin. Ils vont échanger des correspondances qui sont d'une grande complicité, puisqu'ils s'injurent toujours très gentiment contre les conventions ensemble, tous les deux. Mais suite à ses études, le père prendra Austin comme associé, puis aussi comme économe de
l'école.
Voilà.
Et puis, peut-être un autre trait qui est important dans la personnalité, enfin dans la vie d'Emily Dickinson, c'est la maladie. C'est-à-dire que c'est une enfant fragile. Hein. Elle a par moments des espèces de crises, des refroidissements, comme on disait à l'époque, des choses un petit peu... on n'avait pas de termes très précis, mais excuse-moi de finir.
Oui.
Et je crois qu'elle a, en tout cas, on diagnostique la maladie qui viendra à bout d'elle, c'est la maladie de Bright, qui est une maladie, une affection rénale assez grave, quoi. Il me semble avoir lu ça. Maintenant, je ne suis pas le spécialiste ce soir.
Non, pas du tout. Mais en fait, ça s'inscrit par étapes. Parce que si on veut dévoiler un petit peu cette histoire d'Emily Dickinson, dans sa petite enfance jusqu'au collège, lorsqu'elle rentrera au collège avec Lavinia, il n'y a pas de signe a priori de maladie ou de déficience physique. Elle est très joueuse. C'est une enfant espiègle qui aime beaucoup ses camarades de classe et qui, avant tout, c'est ce qui la définit. jusqu'au collège, où effectivement, là, à partir du collège et de l'adolescence, elle va développer des faiblesses, des maladies, bref.
Et alors, est-ce qu'elle écrit déjà quand elle est enfant ?
Il y a 1050 lettres d'Emily Dickinson, c'est ce qui est immense, quoi. Une correspondance avant ses 12 ans, qui est énorme, avec tous ses camarades de classe en particulier.
Donc, on va peut-être simplement l'écouter à nouveau.
How dreary to be somebody. How public, like a frog. To tell one's name, the lifelong June, to an admiring bog.
Comme c'est ennuyeux d'être quelqu'un, public comme une grenouille, qui crie son nom tout le long de juin à un marécage béat. L'herbe a si peu à faire, une sphère de simple verre, n'ayant qu'à couver les papillons et tenir compagnie aux abeilles, et se balancer tout le jour sur de jolies chansons que les brises vont chercher, et tenir le soleil dans son giron, et faire des courbettes à tout, et enfiler les rosées toute la nuit comme des perles, et se faire si belle qu'une duchesse serait trop ordinaire pour qu'on la remarque comme elle, et même quand elle meurt, périr en odeur si divine, comme d'humbles épices couchées, endormies, ou comme le nard indien qui, expirant, s'exhale, et puis habiter dans des granges royales, occuper ses journées à rêver. L'herbe a si peu à faire, je voudrais être foin.
Des fleurs. Eh bien, s'il est quelqu'un qui puisse définir l'extase, moitié transport, moitié tourment, dont les fleurs confondent les hommes. S'il est quelqu'un qui trouve la fontaine au flot adverse, je lui tendrai toutes les marguerites poussant sur la colline, trop d'émotions sur leur visage pour un cœur simple comme moi. Les papillons de Saint-Domingue qui croisent par-dessus l'horizon pourpre ont un système d'esthétique bien supérieur au mien.
J'appris au moins ce que pouvait être un foyer. Comme j'avais été ignorante des charmantes manières de l'Alliance et gauche avec les hymnes qu'on chantait autour de notre cheminée neuve, sauf pour ceci, ce motif, cette manière de faire, dont le souvenir me noie, comme une plongée dans une mer céleste. Ces matins dans notre jardin, on devinait quelles abeilles bourdonnaient pour nous, avec seulement les oiseaux pour interrompre le clapotis de nos conversations. Et nos tâches, à tous deux, une fois les jeux finis, tes problèmes intellectuels et les miens, d'un effet plus folâtre, manchettes de dentelle ou chansons. Les après-midi passés ensemble et les crépuscules dans les chemins. Quelques visites aux plus pauvres, vues comme plus pauvres encore, au regard de nos gains. Et puis, m'évanouir en toi, soin nouveau, plus divin. Jusqu'à ce que le lever du soleil nous fasse remonter sur scène, transmué, plus éclatant. Cela ressemble à un foyer, et pourtant n'est pas un foyer. Mais ce que ce lieu pourrait être m'afflige, comme un coucher de soleil, là où l'aube sait comment il convient d'être.
Thank you.
Bon, donc, cette Emily Dickinson, en 1840, va rentrer au collège.
Oui.
Elle va y rester 6 ans.
Voilà. Elle rentre le 7 décembre 40 avec sa sœur Lavinia au collège d'Amherst, une ancienne école de garçons qui avait ouvert ses portes aux filles 2 ans plus tôt. Et à la même époque, son père va acquérir une maison qui s'appellera le Manoir et qui donne sur le cimetière d'Amherst. Ses études sont effectivement, comme tu le disais, Michel, souvent interrompues par des refroidissements, des malaises et une faiblesse générale de plus en plus fréquente. Elle va suivre des cours d'anglais, de littérature classique, de français, de latin, d'histoire, mais ce sont surtout les cours de botanique qui vont retenir son attention.
On pourrait peut-être parler de la maison des Dickinson, parce que c'est une très très grande maison. En fait, ce sont 2 maisons, je crois, séparées par un très très grand jardin.
Oui.
Et on peut le dire dès maintenant, parce que c'est quand même la chose extraordinaire de cette vie d'Emily Dickinson, c'est qu'elle a passé quasiment toute sa vie dans cette maison, quoi,
oui.
À quelques petites exceptions près, et qu'on navigue de l'une à l'autre. De cette maison, on voit les vallées, hein, on voit le Connecticut, le fleuve Connecticut qui donne son nom à l'état voisin, et elle est très très vite, elle a un royaume, on va dire un royaume botanique immense à ses pieds.
Alors elle a à la fois la maison paternelle qui s'appelle Homestead et puis juste à côté plus tard ce sera la maison de son frère Austin, Evergreen, et de plus effectivement il y a ce jardin, ce fameux jardin d'Homestead qu'elle va investir très tôt, très vite. Elle a été très marquée par les proses, enfin par ce journal, ce bulletin à l'école qui est le bulletin des feuilles de la forêt où elle publie, elle fait publier à cette époque-là, des proses humoristiques qui font beaucoup rire tout le monde. Elle met tous les rieurs de son côté. Elle est à l'époque très drôle. Elle se lie d'amitié aussi avec Abia et lui enverra une de ses plus belles lettres. Elle écrit alors que sa santé va s'altérer de plus en plus puisqu'en 1946, elle va rester chez elle tout l'hiver et quitter le collège après 11 semaines uniquement d'études.
Oui, d'ailleurs, elle écrit à Abia à cette époque « Ma santé a été très mauvaise toute la seconde moitié du printemps. C'est une dure bataille que d'abandonner mes études et d'être considérée comme une invalide, mais ma santé exigeait cet abandon. »
Et puis alors, elle va partir au collège. Hein, ça, c'est la coupure, c'est la cassure importante. Pourquoi elle part au collège, d'ailleurs ?
Non, en fait...
Pourquoi elle part au séminaire, plutôt ? Pourquoi elle quitte ce collège de départ ?
En fait, ça faisait complètement partie de son éducation, de partir au collège pour éventuellement se convertir. Se convertir, c'est-à-dire devenir chrétienne. Devenir chrétienne et
d'accord.
Puis rentrer dans
alors,
toute...
Il faut... Oui.
Oui. Il faut resituer ça dans ce contexte-là, dans celui de la lettre des Écritures et aussi dans ce calvinisme très austère. Donc, elle était désignée pour partir au séminaire. Mais...
Et ça, elle ne le vit pas bien du tout, je crois, hein, cette année de...
Non. Elle va rester 10 mois au séminaire. Et quelles que soient les raisons de son départ, son frère Austin viendra la chercher le 28 mars 1848. Alors... À ce propos, il est quand même intéressant de noter qu'elle commence à tenir tête à cette éducation religieuse puisqu'elle refuse la conversion ainsi que le rapporte dans une lettre sa cousine Clara Turner. Mrs. Lyon, le professeur principal et la directrice, demanda à celle qui voulait devenir chrétienne de se lever. Emily, seule de sa classe, resta assise. Parlant de l'incident à sa cousine, Emily affirmera plus tard « Ils ont trouvé bizarre que je ne me lève pas. » Et elle ajouta, l'œil pétillant, « J'ai pensé qu'un mensonge serait plus bizarre. » Donc vous voyez toute l'esprit-glorie, la candeur et la sincérité désarmante.
On va peut-être lire un petit texte.
« J'ai senti une fissure dans mon esprit, comme si mon cerveau s'était fendu. Je tentais de le rabouter, couture sur couture, mais ne pus les rajuster. » Je m'efforçais de joindre la pensée de tout à l'heure à celle de maintenant, mais les enchaînements déboulèrent hors de portée, comme des pelotes sur un parquet.
It was not death, for I stood up, and all the dead lie down. It was not night, for all the bells put out their tongues for noon. It was not frost, for on my flesh I felt Syracuse crawl, nor fire, for just my marble feet could keep a chancel cool. And yet it tasted, like them all, the figures I have seen, set orderly for burial, reminded me of mine. As if my life were shaven and fitted to a frame, I could not breathe without a key, and 'twas like midnight some. When everything that ticked has stopped, and space stares all around, or grisly frosts, first autumn morns, repeal the beating ground. But most, like chaos, stopless, cool, without a chance or spar, or even a report of land to justify despair.
Ce n'était pas la mort, car j'étais debout, et tous les morts sont allongés. Ce n'était pas la nuit, car toutes les cloches tiraient la langue pour sonner midi. Ce n'était pas le gel, car sur ma chair, les siroccos rampaient. Ni le feu, car mes pieds de marbre à eux seuls auraient pu rafraîchir le cœur d'une cathédrale. Et pourtant, ça avait le goût de tout ça. Les silhouettes que j'ai vues, bien alignées, prêtes pour l'enterrement, me faisaient penser à la mienne. Comme si ma vie était rasée, et ajusté dans un cadre, que je ne pouvais respirer sans une clé, et que c'était un peu comme minuit, quand tout ce qui fait tic-tac s'est arrêté, et que l'espace des visages les alentours, ou que les gelées effroyables, les premiers matins d'automne, révoquent la terre palpitante, mais surtout comme le chaos sans fin, glacé, sans un espoir, sans un espoir, ni même une rumeur que la terre est proche pour justifier le désespoir. Nuit sauvage, si j'étais toi, les nuits sauvages seraient un luxe, fût-il des vents, sur un port, dans le cœur. La boussole, la carte, dans l'Éden, la mer, et je pourrais jeter l'ancre cette nuit en toi.
Wild nights, were I with thee, wild nights should be our luxury. Futile, the winds, to a heart import, done with the compass, done with the chart. Rowing in Eden, ah, the sea, might I but moor tonight in thee.
Mon père ne sait rien de mieux que la vie réelle, et sa vie réelle et la mienne entrent parfois en collision. Qu'est-ce que la vie réelle? Le père et la fille ont là-dessus deux réponses très différentes. Pour le père, la vie réelle est horizontale. On fait venir le train et le télégraphe à Amherst, on signe des contrats, on relie les hommes les uns aux autres, ce qui permet à la richesse de grandir au rythme des échanges. Pour la fille, la vie réelle est verticale. On va de l'âme au maître de l'âme, et pour ça, nul besoin de chemin de fer. On ne commerce qu'avec le ciel, celui qui brille au-dessus de nos têtes comme au fond de nos pudeurs. Dans ce commerce, rien à gagner, juste une sensibilité accrue au sang caillé du Christ sur le poitrail des rouges-gorges, ainsi qu'une compréhension de plus en plus fine, donc douloureuse, des conduites de chacun. Un jour arrive où plus personne ne vous est étranger. Ce jour-là, terrible, signe votre entrée dans la vie réelle.
Tant de projets qui meurent un court après-midi, de ceux-là même inconnus pour qui on les forma. Un homme qui échappe au vol car il s'écarte, un incident, l'espace d'un trottoir, de sa rue coutumière, l'amour qui n'ose pas entrer, car à la porte, un cheval imprévu est attaché qui contemple son désespoir.
Je goûte une liqueur jamais nacrée. Dans les chopes de nacre, pas une cuve au bord du Rhin qui donne un tel alcool. Je suis grisée par l'air et débauchée par la rosée. Je titube les jours d'été sans fin, hors des auberges bleues fondues. Quand les logeurs mettront l'abeille saoule à la porte des digitales, et que les papillons ne prendront plus de verre, je n'en boirai que davantage, jusqu'au jour où les anges remuent leurs chapeaux de neige, et que les saints accourent aux fenêtres pour voir la petite poivrotre s'appuyer au soleil.
Voilà, on a donc laissé Emily Dickinson au séminaire, où elle a écourté son séjour d'ailleurs. Hein. Et il y a quand même un événement important dans ce séminaire aussi. Je crois qu'elle a une rencontre qui va être marquante pour
oui,
elle.
Oui, tu as raison de souligner, mais en fait, Emily, à partir du collège, même avant le séminaire, elle va avoir un cheminement tout au long de sa vie qui va être jalonné de rencontres avec des hommes plus âgés qu'elle. Elle devient amoureuse de ses professeurs au collège, enfin amoureuse, un amour enfantin et adolescent. Et puis à partir de sa sortie du séminaire, effectivement, lorsqu'elle revient à la maison, elle va commencer là, elle rencontre un homme qui est le secrétaire de son père, hein, qui s'appelle Newton.
Benjamin Franklin Newton.
Voilà, Benjamin Franklin Newton.
Deux célébrités en une seule.
Exactement. Qui va un peu la faire éclore, l'encourager à lire, l'écouter, donc la mettre déjà sur un chemin d'autonomie. Eh bien, et puis à partir, donc, cette liaison enfin, intellectuelle va durer 2 ans. Puisque au bout de 2 ans, Newton va partir. Et puis elle va comme ça, de fil en aiguille, rencontrer des hommes qui vont être très importants intellectuellement au cours de son existence.
Oui, ce sont des hommes qui sont intellectuellement importants, mais tout comme le proviseur, en quelque sorte, du séminaire, Newton est aussi tuberculeux. Humphrey, lui, mourra prématurément en 1851.
Humphrey, c'est un de ses professeurs,
voilà,
c'est ça. C'était... Donc il y a une série de morts qui s'abattent autour d'elle.
Exactement.
Dès qu'elle est très jeune, quoi.
Dès qu'elle est très jeune. Et elle écrit à ce propos à Abia, hein, la correspondante, l'amie, « Je ne m'intéresse pas au corps, j'aime l'âme timide. » Donc petit à petit, elle se replie sur elle-même et elle perd de son côté prime sautier, irrévérencieux, et ne se trouve plus non plus à la page. Dans une lettre à Abia, elle écrit « Si jamais je quitte la maison, ce qui est improbable, j'accepterai avec grand plaisir ton invitation. En attendant, chère Abia, je t'en remercie avec chaleur, mais n'espère pas ma visite. Je suis tellement démodée, chérie,
oui,
que tous tes amis en seraient étonnés. »
Excuse-moi, je pensais que le texte était fini. Une question qui me turlupine, c'est quand même qu'est-ce qu'elle lit ? Parce que le père lui a fourni une bibliothèque, enfin... le père a une très grande bibliothèque, elle lit, je crois, Shakespeare, elle lit des grands auteurs, mais parce que c'est le grand mystère d'Emily Dickinson, d'où sort cette poésie qui n'a pas de modèle, quoi, qui ne ressemble à rien d'autre dans cette époque.
Alors elle lit la Bible, elle lit Dickens, elle va lire aussi, elle va être initiée évidemment à la lecture des sœurs Brontë, de Charlotte Brontë avec Jane Eyre, et puis par la suite... Elle dira George Eliot, des poètes. On note aussi beaucoup, beaucoup plus tard, hein, Tourguenieff, voire George Sand. Voilà. Mais l'Apocalypse et la Bible sont quand même la base des lectures.
Oui, alors justement à ce sujet, elle va faire son premier voyage avec son père pour accompagner son père à Washington et à Philadelphie, puisque son père est élu sénateur à cette époque-là. Et lors de son voyage à Philadelphie, elle va rencontrer le second homme très important dans sa vie, c'est le révérend Wadsworth, hein, et qui l'impressionne beaucoup par sa faconde théologique, par sa lecture des évangiles, et qui va l'accompagner très, très longtemps.
Oui, elle se référera à lui comme mon Philadelphie, mon pasteur, mon plus cher ami sur terre et mon berger de la jeunesse. C'est là qu'Émilie, lorsqu'elle a rencontré le révérend pasteur de l'église, elle nourra avec lui une relation qui durera jusqu'à sa mort en 1882.
Et bien, il y a quand même aussi autre chose qui est très étonnant, c'est cette façon de grappiller des mots, parce qu'au fond, hein, elle a une éducation, on va dire, normale, enfin, elle a des bases de
toute chose. Victorienne, oui.
Victorienne, mais bon, elle a appris les lettres, elle a quand même, elle manie la langue normalement, correctement, etc. Mais elle va se mettre dans toutes ses lectures à grappiller des mots par-ci, par-là. Et il faudrait quand même dire qu'elle a commencé à écrire. Elle commence à écrire des petites choses sur des petits bouts de papier, des espèces de petites pensées. C'est une sorte d'herbier qu'elle fait. Et dans cet herbier, elle va commencer à utiliser des mots à sa façon. C'est-à-dire même quand elle n'en comprend pas le sens, et de toutes ses lectures, elle va tirer des mots comme ça. Ce qui explique aussi cette espèce d'explosion intérieure qu'on trouve. C'est pour ça qu'on est tous très étonnés par cette poésie. Parce qu'à l'époque, c'est très, très classique, c'est très rangé, on va dire, la poésie de genre, c'est ça. Il y a quand même un homme qu'elle n'a pas lu, parce qu'on lui a dit que c'était quelqu'un de pas fréquentable, c'est Walt Whitman,
oui.
Qui est le grand de l'époque oui. En même temps.
Mm-mm.
Ça, c'est un mystère,
oui.
On ne saura pas. On va peut-être écouter d'autres textes.
Water is taught by thirst, land by the ocean's past, transport by throw, peace by its battles told, love by memorial mold, birds by the snow.
L'eau est révélée par la soif, la terre par les océans franchis, la joie par les affres, la paix par les récits des batailles, l'amour par le sceau mémorial, les oiseaux par la neige.
Est-ce que telle ou telle nuit, quelqu'un s'inquiéterait si telle petite silhouette glissait sans bruit de sa chaise, si silencieuse, oh tellement silencieuse, que personne ne pourrait savoir que cette petite silhouette se balançait en un doux va-et-vient? Est-ce que par telle ou telle aube, quelqu'un soupirerait si une telle petite silhouette restait couchée en trop profond sommeil, pour que Chanteclair la réveille, ou l'agitation dans la maison, ou l'oiseau foufou dans le verger, ou une tâche matinale à exercer? Dans chaque petit monticule tomba comme une masse une petite silhouette, aiguille active, bobine de fil, pied qui traîne en rentrant de l'école, camarade de jeu, vacances, noisettes, et visions petites et grandes. Comme c'est étrange que des pieds portant une charge si précieuse atteignent un si minuscule but.
Un oiseau passa sur le chemin. Il ne savait pas que je le voyais. Il coupa un ver de terre en deux et l'avala, tout cru. Puis il but une rosée d'une herbe offerte, puis sautilla de côté vers le mur pour laisser passer un scarabée. Il jetait des coups d'œil rapides et pressés tout autour. Ses yeux ressemblaient, pensais-je, à des perles effrayées. Il bougea sa tête de velours, comme quelqu'un en danger, prudent. Je lui ouvris une miette et il déroula ses plumes et rentra chez lui en voguant plus doucement que les rames ne divisent l'océan. Sillage d'argent sans couture.
Cher maître, je suis malade, mais plus chagriné que vous le soyez, j'exercerai ma main la plus forte assez longtemps pour vous écrire. J'ai cru que peut-être vous étiez au ciel, et comme vous avez de nouveau parlé, cela a été très doux et merveilleux, et une telle surprise, j'aimerais que vous alliez bien. Je voudrais que tous ceux que j'aime ne soient plus faibles. Les violettes sont à mon côté, le rouge-gorge tout près, et le printemps, ils disent. Qui est-ce qui passe devant le seuil? En vérité, c'est la maison de Dieu. Ce sont ici les portes du ciel, et entre elles, les anges vont et viennent, avec leurs charmants postillons. J'aimerais être grande, comme Monsieur Michel-Ange, et pouvoir peindre pour vous. Vous me demandez ce que disent mes fleurs. Alors elles ont été désobéissantes. Je leur avais confié des messages. Elles disaient que ce que les lèvres à l'Occident disent quand le soleil se dérobe, et ce que dit aussi l'aube. Écoutez à nouveau, maître. Je ne vous ai pas dit qu'aujourd'hui était jour du sabbat. Chaque sabbat sur la mer me fait compter les sabbats jusqu'à notre réunion sur la rive. Et qui sait si les collines seront-elles, aussi bleues que le disent les marins. Je ne puis parler davantage, rester plus longtemps, ce soir, maintenant, car la douleur m'en empêche. Quelle force quand on est faible de se souvenir, et qu'il est facile vraiment d'aimer. M'écrirez-vous ? Écrivez-moi, je vous prie, dès que vous irez bien.
J'ai une sœur à la maison. Une autre a une aide ici. Une seule est répertoriée, mais les deux m'appartiennent. L'une est venue par la même route que moi et a porté ma robe de l'année dernière. L'autre, comme l'oiseau, a construit dans nos cœurs son nid. Elle ne chantait pas comme nous. La mélodie était différente. Elle-même, sa propre musique, comme le bourdon en juin. Aujourd'hui est loin de l'enfance. Mais grimpant ou dévalant les collines, je n'en tenais sa main que plus serrée, ce qui raccourcissait le chemin. Et toujours elle fredonne au long des années, trompant le papillon. Et toujours dans ses yeux fleurissent les violettes qui, mai après mai, ont péri. La rosée, je l'ai renversée, mais j'ai gardé le matin. J'ai choisi cette unique étoile dans le nombre infini de la vaste nuit. Sue, à toi pour toujours.
Tu as raison. Non, là, du temps encore. Nous avons du temps, nous avons tout le temps devant nous pour parler d'Emily Dickinson. Voilà, donc on l'a laissé au retour du séminaire, hein, Elle vient de revenir à Amherst.
Enfin, on l'a même laissée au retour de Philadelphie.
Où elle a rencontré ce...
Wadsworth.
Voilà. Et donc, à partir de cette période, elle ne va plus bouger du tout de cette maison.
Elle va rester dans sa maison. Elle deviendra recluse.
Alors, son frère va se marier, je crois. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que ça veut dire qu'un petit peu, c'est la rupture de enfin, peut-être pas la rupture, parce qu'ils restent toujours amis, mais il n'y a plus le même rapport de complicité, évidemment, qu'il y a eu entre eux. Et elle va commencer à mener cette vie un petit peu recluse, cette vie, on va dire, contemplative, très contemplative, qui s'occupe entièrement de petites choses de la maison, du jardin, préparer des choses pour les enfants aussi, donner des gâteaux.
Oui, elle décrit dans ses lettres ces choses du quotidien, repriser le talon des bas, préparer les jaunes d'œufs pour les tartes. Et le professeur Judith Fair note que de son vivant, Émilie est peut-être plus connue comme jardinière que comme poète. À cette époque, elle entretient encore plus avec soin le jardin de Homestead. Tout au long de sa vie, elle va rassembler une collection de plantes séchées dans un herbier et qui contient 424 spécimens de fleurs qu'elle a classées. Sa nièce décrit des tapis de muguet et de pensée, de rond-point de senteur et de jacinthe. Il y avait des rubans de haies de pivoine et des amoncellements de jonquilles, des soucis à foison, un vrai rêve de papillon.
Et à côté de ses occupations ménagères et de jardin et de papillons, comme tu le disais, Michel, tout à l'heure, elle écrit partout. Hein. Elle écrit sur des morceaux de papier, des boutons, des plumes, des vis, des punaises. Elle écrit tant que, quand même, à un moment donné, elle va prendre la vie de deux personnages qui vont être importants pour elle, qui sont chroniqueurs dans des journaux, chroniqueurs ou propriétaires de journaux, donc à Amherst. Il y a donc le colonel Higginson, à qui elle va écrire en 1862...
Donc elle a 32 ans.
Elle a 32 ans déjà. Monsieur Higginson, êtes-vous trop résolument occupé pour dire si mes vers sont vivants ? L'esprit est si près de soi-même qu'il ne peut voir distinctement. Et je n'ai personne à qui demander. Je vous demande de me dire la vérité. Donc à cet instant-là, quand même, elle prend cette initiative d'aller vers des critiques, des gens qui connaissent un peu la poésie américaine pour prendre leur avis.
Voilà, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en même temps qu'on dit qu'elle est plus connue comme jardinière que comme poète, comme poétesse, elle n'a jamais voulu être publiée, on peut le dire ça dès maintenant, hein. Elle ne cherche pas ça du tout, c'est pas du tout son but, c'est de savoir si ses vers sont vivants. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est juste dans son écriture ? C'est une question plutôt de cet ordre-là. Alors évidemment, Higginson lui répond que oui, c'est intéressant, c'est original, etc., mais ça ne respecte pas les règles de prosodie. Et oui, Thérèse ?
Oui, je voulais ajouter que c'était quand même la période où elle allait écrire le plus. Les années 1860, c'est une période où elle va envoyer plus de 50 poèmes. Donc elle est vraiment dans une très, très, on va dire, prolixe. Voilà, à ce moment-là.
Profusion de textes, mais en même temps, elle se demande toujours... Enfin, elle ne veut pas publier, ça n'est pas son souci
non,
du tout. Elle veut écrire, par contre. C'est très important. Et tout d'un coup, ces petites choses qu'elle a mis, ces petits bouts, commencent à prendre une importance pour elle-même. D'ailleurs, je crois qu'elle passe des petits bouts de papier à des liasses. Puis, il y a une espèce d'évolution dans la matérialité de ses poèmes, puisqu'elle a commencé par des petits bouts de papier épars, puis ça va être des liasses qu'elle va relier, puis ça va être enfin des cahiers. Quoi. Hein. Alors... on va peut-être écouter un autre texte.
Bring me the sunset in a cup. Apporte-moi le soleil couchant dans une tasse. Compte les flacons du matin.
Tell me how far the morning leaps.
Dénombre la rosée. Dis-moi jusqu'au bondi le matin.
Time the weaver sleeps.
Dis-moi à quelle heure s'endort le tisserand qui a filé ses laits de bleu.
Write me how many notes there be.
Écris pour moi combien de notes on trouve dans l'extase de la grive nouvelle. Parmi les branches éblouies, combien de voyages fait la tortue?
How many cups the bee partakes?
Combien de coupes boit l'abeille?
The debauchée of juice.
Cette débauchée de rosée.
Also, who laid the rainbow's
aussi,
beers?
Qui a construit les digues de l'arc-en-ciel?
Also, who leads the docile spheres?
Aussi, qui conduit les sphères dociles?
By withes of supple blue.
Au bout d'un souple brin d'osier bleu?
Whose fingers string the stalactites?
Quels sont les doigts qui attachent la stalactite?
Who counts the wampum of the night?
Qui compte les wampums de la nuit pour s'assurer qu'aucun ne manque?
Who built this little auburn house?
Qui a bâti cette petite maison d'albâtre?
And shut the windows down so close?
Et en a si bien fermé les
fenêtres
que mon esprit l'esprit n'y voit goutte.
Who'll let me out some gala
qui me libérera un jour de gala
with implements to fly away,
avec tout ce qu'il faut pour m'envoler
passing pomposity
dans un faste dément.
She sweeps with many colored brooms.
Elle passe ses balais multicolores.
And leaves the shreds behind.
Et ça s'effiloche derrière.
Oh housewife in the evening west.
Oh ménagère du couchant.
Come back.
Reviens.
And dust the pond.
Et poussette la mare.
You dropped a purple raveling in.
Tu as fait tomber une pelote pourpre.
You dropped an amber thread.
Tu as fait tomber un fil d'ambre.
And now you're littered all the east.
Et maintenant, tu as jonché tout l'Orient.
With duds of emerald.
De nippes d'émeraude.
And still she plies her spotted thrift.
Et encore, elle nous offre son moucheté frugal.
And still the scene prevails.
Et encore, la scène prévaut.
Till dusk obstructs the diligence.
Jusqu'à ce que la pénombre vienne obstruer le zèle.
Or contemplation fails.
Ou qu'échoue la contemplation.
Une seule planche de trèfle était tout ce qui empêchait un bourdon, un bourdon que je connaissais personnellement, de s'abîmer dans les flots du ciel, entre le firmament du dessus et le firmament du dessous. Les vagues de la circonférence l'emportaient à jamais. Cette planche se balançant paresseusement, responsable de rien, reçut une soudaine cargaison de vent et disparut le bourdon. Cet événement déchirant, s'ébruitant dans l'herbe, ne lui arracha même pas un vagabond, hélas.
À Samuel Bowles, fin août 1859. Cher Monsieur Bowles, j'ai reçu le petit opuscule. Je pense que c'est vous qui me l'avez envoyé, quoique votre écriture ne me soit pas familière. Je me trompe peut-être. Merci à vous si j'ai bien deviné. Merci à vous. Sinon, puisque cela me fournit un heureux prétexte pour vous demander comment vous allez ce soir et tendrement m'enquérir de la santé de quatre autres, Marie, la majeure, et Marie, la mineure, Sally et Sam, j'espère que vos coupes sont pleines. J'espère que votre vendange est intacte. Dans cette vie de porcelaine, on aime être sûr que tout va bien, de peur de trébucher sur ses espoirs comme sur un amas de vaisselle brisée. Mes amis sont ma fortune. Aussi pardonnez-moi l'avarice qui me fait les thésauriser. On me dit que ceux qui ont été pauvres tôt ont une vision différente de l'or. Je ne sais comment cela se fait. Dieu n'est pas aussi circonspect que nous. Sans quoi, il ne nous donnerait pas d'amis de crainte que nous l'oublions. Les charmes du ciel qu'on aura sont détrônés de temps à autre. Je le crains par le ciel qu'on tient. L'été s'est arrêté depuis votre visite. Personne n'y a fait attention. J'entends aucun homme ou femme. Certes, un tourment menu déchire les champs et des endeuillés rôdent dans les bois. Mais cela ne nous concerne pas. Affaire trop importante en vérité que notre majestueuse résurrection. Grâce spéciale si j'en juge d'après ce que dit le clergé. Pour l'homme naturel, les bourdons sembleraient un progrès avec un assaisonnement d'oiseaux, mais loin de moi de récuser des goûts aussi grandioses. Notre pasteur dit que nous sommes un ver. Comment est-ce conciliable? Le ver futile, plein de péchés, appartient peut-être à une autre espèce. Croyez-vous que nous verrons Dieu? Pensez à Abraham se promenant cordialement avec lui. On fait la seconde fenaison, les javelles sont plus petites que les premières et plus odorantes. Je voudrais emplir dessus qu'une coupe, la porter à tous mes amis, buvant à celui qui plus ne remue aux landes, aux sources, aux rues. Bonne nuit, monsieur Bowles. C'est ce que disent ceux qui reviennent le matin. Et aussi le dernier paragraphe sur les lèvres révoquées. La confiance dans l'aube modifie le crépuscule. Bénédiction pour Mrs. Bowles et baiser pour les lèvres des enfants. Nous désirons vous voir, monsieur Bowles, mais vous épargnons la répétition de vérité familière. Bonne nuit, Émilie.
Ήρθα στην ώρα της φωτιάς βροχή από το αύριο του κόσμου σαρωτική.
sono genifico. Στο αυγουστιώτικο μαλλιό σου
Je ne l'ai pas encore dit au jardin, de peur d'en être subjugué. Je n'ai pas tout à fait la force de le dire à l'abeille. Je ne dirai pas à la rue, car les boutiques me regarderaient, que moi, si timide, si ignorante, j'aurais l'audace de mourir. Les coteaux ne doivent pas le savoir, j'y ai souvent vagabondé. Il ne faut pas dire aux forêts aimantes le jour où je m'éloignerai. Ni en parler tout bas à table, ni suggérer imprudemment que quelqu'un, aujourd'hui, s'en ira au cœur de l'énigme.
Je partis tôt, pris mon chien, rendis visite à la mère. Les sirènes du sous-sol montèrent pour me voir, et les frégates, à l'étage, tendirent des mains de chanvre, me prenant pour une souris échouée sur les sables. Mais nul homme ne me héla, et le flot dépassa ma chaussure, puis mon tablier et ma ceinture, puis mon corsage aussi. Il menaçait de m'avaler toute comme la rosée sur le gilet d'un pissenlit, alors je courus aussi, et lui, il me serrait de près. Je sentis sur ma cheville son talon d'argent, mes souliers allaient déborder de perles. Enfin ce fut la cité ferme. Nul semblait-il qu'il connût là, et m'adressant un impérieux salut, l'océan se retira.
Les parents voient leurs enfants, jamais leurs âmes. Celle d'Émilie tient dans une goutte de rosée. L'infime est son royaume. Elle contemple le ciel à travers le vitrail des ailes d'une libellule et s'aménage un béguinage à l'intérieur d'une clochette de muguet, une cheminée dans l'âtre de laquelle tombe les étoiles du ciel, un lit couvert de neige et une table en bois de cerisier. Sa chambre a le dépouillement princier d'une cellule de moine, et elle est plus belle de ne pas l'afficher. Quand autour d'elle les ambitions se déclarent et que chacun veut être quelque chose, elle fait le rêve souverain de n'être rien et de mourir inconnu. L'humilité est son orgueil, l'effacement son triomphe.
When I have seen the sun emerge from his amazing house and leave a day at every door,
quand j'ai vu le soleil émerger in every place, de sa stupéfiante maison,
without the incident
pour laisser un
of
jour à chaque porte,
or accident
une action
of noise,
en chaque lieu,
the earth has seemed to me a drum,
sans le moindre incident comme
boys,
la gloire, ni accident comme le bruit. La terre m'est apparue comme un tambour derrière lequel courent des gamins.
Mes bouquets sont pour des yeux captifs, incertains, et attendant depuis longtemps. Les doigts refusent de cueillir, patientent jusqu'au paradis. Pour eux, s'ils doivent chuchoter du matin et de la terre, ils ne portent aucun autre message, et moi, aucune prière.
Thank you.
ainsi s'achève cette émission elliptique sur l'elliptique Emily Dickinson. Première partie de notre portrait d'Emily, donc cette poétesse étrange, silencieuse, qui n'a été découverte que beaucoup plus tard. On en parlera dans la deuxième émission. On va d'abord donner des sources qui nous ont permis de nous régaler. D'abord, il y a une belle édition bilingue complète d'Emily Dickinson, Les poésies complètes chez Flammarion, traduite par Françoise Delphi. Ensuite, il faut rendre hommage aussi à Christian Bobin, dont on a lu plusieurs extraits. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de les créditer. Les gens qui réécouteront et réécouteront cette émission auront le temps de faire la comparaison avec le texte. Il s'agit donc de La Dame Blanche par Christian Bobin. Il y a également deux petits recueils dans la collection Poésie Gallimard, Emily Dickinson. Hein, le premier, c'est Carla Dieu, c'est la nuit. Et le second, j'ai oublié le titre, mais ce sont des textes beaucoup plus courts. Puisque de toute façon, on va le voir au fur et à mesure de son œuvre, son expression va devenir de plus en plus ramassée. Hein, et à la fin, elle n'écrira plus que des choses assez lapidaires, très très courtes. Donc il y a d'une part ses livres. On peut signaler, pour ceux qui ont la chance de le retrouver chez les bouquinistes, une belle étude d'Alain Bosquet dans la collection Poètes d'aujourd'hui, qui hélas a disparu depuis 20 ans, mais qu'on peut trouver en bibliothèque aussi. Alors des essais, il y a aussi une autre traduction par... c'est Claire Malvoux hein, Claire Malroux a fait une autre traduction, alors qui elle se trouve est-ce qu'on peut me donner l'éditeur là, que j'ai pas l'air trop Benet, donc je serai Benet. Et il y a également aussi des lettres, hein, les lettres, des recueils de lettres d'Emily Dickinson qui sont importantes. On va aussi remercier, je crois que c'est Lettres à l'amant et au maître, c'est ça? Oui, je vois que mon camarade plongé dans ses notes me fait...
Lettre au maître, à l'ami, au précepteur et à l'amant.
Voilà. Et ça, c'est édité chez...
Chez José Corti.
Voilà. Je crois que José Corti, d'ailleurs, a édité pas mal de choses autour d'Emily Dickinson. Enfin, on va remercier aussi les musiciens qui ont apporté pour nous leur contribution. Il y a évidemment... vous avez peut-être reconnu Ophélie Gaillard jouant Claude Debussy. Il y a également Michael Nyman, la leçon de piano. Il y a aussi l'extrait de Petrushka de Stravinsky. Bill Evans, qu'on entendait jouer You Must Believe in Spring, qui est un titre que Emily Dickinson n'aurait pas renié. Le Cirque Plume, qui nous a donné un petit bout de sa musique pour Plic Ploc. Angélique Yonatos. Et enfin, comme d'habitude... nos amis du Hadouk Trio qui nous accompagnent jusqu'au bout. Vous pouvez réécouter ces émissions, elles sont en rediffusion le dimanche matin à 10h et également vous pourrez l'écouter les mardis suivants et puis le mardi donc 14h20 ce sera la deuxième partie de cette émission à Emily Dickinson. Il me reste évidemment à remercier tous ceux qui ont collaboré à cette émission, Thérèse Bonetta, Yves Flanck, et aussi un grand merci à Jess Mitchell et à Caroline Addis qui ont porté la langue maternelle d'Emily Dickinson pendant cette émission et qui continueront de le faire avec nous à la prochaine émission. Et l'ineffable Tom à la technique. Mm-hmm.